N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est t'as un petit peu un voleur aussi! Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg, droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, voilà pour votre émission Plan Séquence. On va vous parler évidemment cinéma ce soir, n'est-ce pas Charles, qu'on va vous parler cinéma ce soir?
Tout à fait.
Et on va vous parler, alors pas que de films. Tu nous parleras peut-être pas d'un film ce soir, non, Charles, non, puisque ta chronique, comme tu le fais des fois, va être en cours d'émission. Elle c'est va ça. Évoluer au cours de l'émission. Donc voilà, petit à petit, on vous dévoilera tout l'univers de la chronique de Charles au fur et à mesure de l'émission qu'elle avance. Pour ma part, je vous parlerai de La promesse verte d'Edouard Bergeon et aussi d'un film que j'ai beaucoup aimé, La vie de ma mère de Julien Carpentier. Et puis il y a Pierre aussi qui normalement va venir ce soir, on parlera de Vampire, mince, c'est quoi exactement le titre? C'est un titre à rallonge et j'ai oublié le titre exact que j'ai, voilà, Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, voilà, tout un programme, mais avant ça, quelques news et puis après on vous repassera une interview qu'on avait réalisée il y a 4 ans déjà de Tariq de la Bibliothèque des Studios. Mais avant, quelques news, Charles, et je crois que tu en avais une.
Bah oui, une news, une nécro, malheureusement.
Oui, tu n'étais pas là la semaine dernière, et ça, toi, je crois qu'on a fait une nécro, je ne sais plus de qui, mais ça a manqué ta présence.
Ah bah ouais. Daniel Beretta, qui est mort. Alors,
mais,
voilà, dit comme
mais,
ça.
Mais qui est Daniel Beretta, Charles?
Daniel Beretta, je vous avoue que... Ben, on sait tous, hein, tout le monde à l'antenne. Le connaît sans vraiment le connaître. On le connaît sous d'autres traits. En fait, c'est un doubleur. C'est la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, on connaît bien cette grosse voix. Effectivement, d'ailleurs, même lui, il est assez badass hein, quand on le voit. Donc, il avait, n'était pas aussi musclé que Schwarzenegger, mais voilà, il vient de mourir à l'âge de 77 ans. Et donc voilà, il avait doublé Arnold Schwarzenegger jusqu'en 2021. Et c'est vrai que Schwarzenegger, on le voit un petit peu moins aussi maintenant. Mais c'est vrai, je me dis, ça doit être assez... bon, là, par exemple, on a l'acteur qui est toujours vivant, son doubleur meurt, bon, bah, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué.
Bah, quand c'est une voix identifiable parmi
voilà,
d'autres.
Quand c'est quelqu'un dont on connaît la voix depuis très longtemps. C'est comme, par exemple, Bruce Willis, il avait cette voix en fait qu'on reconnaissait bien. Et parfois, ça arrivait que certains films, ça ne soit pas le même doubleur. Il y a eu deux doubleurs à une époque, un qu'on connaissait plus que l'autre. Et mais c'est vrai que voilà, pour le cas de Bruce Willis, son doubleur officiel avait des petits problèmes d'alcool. Alors ça, apparemment, c'était assez compliqué de travailler avec lui. Mais voilà, une fois que la voix est placée, bah, faut faire avec.
Oui, tu ne peux pas changer en cours. Enfin, si, ça a dû exister
ben,
déjà.
Ça a
existé. Ouais.
Ben, par exemple, dans Le Cinquième Élément de Luc Besson, ce n'est pas la voix classique de Bruce Willis qu'on connaît, parce que justement, Luc Besson s'est pris la tête avec le doubleur de Bruce Willis. Mais je me dis, en fait, ce qui doit être assez étrange, c'est parfois quand un acteur, justement, décède, que devient... Enfin, ça doit être,
oui, que devient sa voix. Ouais,
ça doit être assez difficile, en fait, parce que en fait, ça peut stopper la carrière de quelqu'un. Je vois, par exemple, parfois, il y a des acteurs qui sont morts assez jeune. Et je pense que quand tu commences à être la voix, le doubleur d'un acteur qui commence à être connu, tu dis « Ah, c'est bon, là, cool, en fait, je suis la voix. » Enfin,
voilà, il y avait S. Ledger, par exemple, qui commençait à être, qui est mort assez jeune.
Qui ça?
Alors, je prononce sûrement mal celui qui faisait Joker, S. Ledger.
Oui, j'ai oublié son nom aussi.
Il avait 28 ans, 28.
Ouais, voilà.
Ouais, ouais. Et je crois qu'il n'avait pas 30 ans. Ouais.
Donc, c'est vrai que voilà, il commençait à jouer dans beaucoup de films. Donc, je pense que quand tu deviens le doubleur d'une star montante, c'est plutôt
James
cool.
Dean aussi, son doubleur à l'époque.
Bien sûr, ouais. Et puis Paul Walker. Voilà, il y a pas mal d'acteurs comme ça qui partent et ça doit pas toujours être facile.
Mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire une émission, de recevoir un doubleur ou ouais. Parce que c'est vrai qu'on en parle, on parle effectivement
rarement.
De la VF où nous c'est vrai qu'on va plutôt voir des films en VO, mais effectivement une bonne VF, il y a des gens qui aiment pas forcément la VO et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des VF pour plein de raisons parce que faut lire, y en a qui voilà qui ça passe vite hein, les sous-titres hein, donc ouais. Voilà.
Et puis aussi. Enfin, du coup, il y a beaucoup de doubleurs aussi pour les films d'animation.
Aussi, voilà, ouais, carrément.
Ce qui est encore
ouais.
un
autre champ, ouais.
Enfin, ça reste équivalent, quoi, mais c'est encore autre chose. Puisque là, cette fois, on a des acteurs connus, parfois, qui donnent leur voix à des personnages.
Ouais, bah, il y a eu Pierre Niney qui avait fait la fourchette dans Toy Story, par exemple. Je pense à lui, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, tout ouais, non, mais voilà, effectivement, c'est un exemple comme un autre, quoi.
Donc voilà.
Mais pareil, d'ailleurs, c'est très dur parce que moi, j'ai déjà vu des documentaires sur le doublage, que ce soit de films d'animation ou de films classiques, où effectivement, il y a un rythme de parole à avoir. On voit les phrases défiler très, très vite et il faut les lire quand ça passe devant un trait. Enfin, voilà,
ouais, puis l'intention que tu vas donner à la phrase.
Voilà, ouais,
Puis après, il y a aussi ceux qui... La post-synchronisation, même sur les films de fiction. Enfin, il y a eu des films de prise de vue réelle où c'est redoublé, enfin, je pense à je sais pas, des films italiens par exemple,
ouais,
ou même
ouais.
d'autres films, hein, même plus récents, où tu redoubles et là, effectivement, ça doit, tu dois avoir l'intention que tu as mis dans ton jeu, mais redoubler. Ouais.
Oui, et puis ce qui est aussi rigolo, c'est que parfois, en fait, ce sont des acteurs qui se doublent eux-mêmes.
Oui.
Quand ils jouent, bah, je pense que Léa Seydoux, par exemple, qui joue dans un film James Bond, pour la VF, bah, voilà, c'est elle qui va se doubler. Donc ça doit être assez drôle de se doubler, en fait.
Parce qu'il faut que les lèvres bougent en même temps, et du coup, il y a de l'adaptation aussi.
Ouais, ouais,
c'est pas évident, ouais. Pour en tout cas celui qui va adapter.
C'est un métier assez intéressant qui doit être vraiment assez difficile, quoi.
On essaiera ouais, un jour de faire une émission là-dessus, en tout cas d'avoir quelqu'un en interview, parce que ça peut être très intéressant, en effet. Bah, on vous propose, voilà, avant d'enchaîner sur les chroniques de films, d'aller vers la bibliothèque des cinémas studios. Et d'ailleurs, non, avant ça, juste pour vous reparler encore des studios, mais il y a l'avant-première demain, donc vendredi 29 mars. Il y a une rencontre avec Nicolas Philibert, donc réalisateur, notamment l'année dernière de Sous l'air d'amant. C'était la suite là, de Sous l'air d'amant, La machine à écrire et autres sources de tracas. Donc il y a Nicolas Philibert qui vient au studio à 19h45 avec la psychologue clinicienne et psychanalyste Linda Sitter. J'espère que je prononce bien. Et ça sera dans quelques semaines, mais vous pouvez déjà le noter. Il y a Sandra Kronlund qui fait Les Pieds sur Terre sur France Culture, qui a réalisé un film qui s'appelle L'homme aux mille visages. C'est un documentaire et elle viendra au studio, pareil, le mardi 9 avril. Et toujours pour parler de documentaire, un nouveau film de Sébastien Lipzit qui avait fait Adolescente il y a quelques années, notamment, qui vient le vendredi 12 avril. Donc voilà, vous pouvez noter ça sur vos tablettes. Et on va partir vers la bibliothèque des cinémas studios. Tariq, qui travaille au studio et en particulier à la bibliothèque, on était allé à sa rencontre il y a quelques années. Et bah, c'est un super lieu, la bibliothèque des studios, si vous ne connaissez pas. Et ensuite, parce que ça a été dévoilé il y a quelques jours, on pourra enfin, parce que c'est sorti officiellement, vous dire la liste de la nuit des studios, puisqu'elle est sortie hier ou avant-hier de façon officielle. Donc on va pouvoir vous la dire dans quelques instants.
Ouais.
Et avant, Tariq de la Bibliothèque des Cinémas Studios.
À la Bibliothèque des Studios, que certains auditeurs connaissent peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur Tours, on avait envie voilà, de revenir ici. Donc ça jouxte évidemment les cinémas studios. Et je suis avec Tariq, qui travaille au cinéma studio et plus particulièrement à la bibliothèque. Donc la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous présenter un peu globalement la bibliothèque? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Et pour les étudiants qui voudraient faire des recherches notamment, comment ils doivent s'y prendre?
Oui. Alors, bonjour, donc, je m'appelle Tariq, je suis salarié au studio. Alors la bibliothèque, elle existe quasi depuis le début des studios, mais elle était réservée surtout à ceux qui écrivent dans les carnets des studios. Et de fil en aiguille, elle est passée, enfin, ouverte au public dans les années 80. C'est devenu en fait le fonds spécialisé dans le cinéma le plus important de la région. Pour concrètement faire une recherche, on peut déjà de chez soi consulter le catalogue de la bibliothèque municipale de Tours. Donc, on va retrouver donc, nos ressources disponibles ici. On a un photocopieur, donc il est possible de photocopier ou de prendre en photo les documents présents dans nos murs. Et on est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche, de 15h30 à 19h30. On est fermé pendant les vacances scolaires. Et puis, on répond aussi à la demande. On nous envoie un mail donc, à biblistudio@gmail.com. Donc, on a un fonds en fait, spécialisé dans le cinéma. C'est-à-dire que tous les documents qu'on va trouver ici ne parlent que d'une seule chose, c'est le cinéma. Donc, il y a différentes façons de parler de cinéma. Ça va de l'économie du cinéma à la sociologie du cinéma. Par exemple, les enfants et le cinéma, l'étude des publics, etc. Un élément important pour nous, c'est tout ce qui concerne les différentes cinématographies d'un peu partout dans le monde. Donc on va trouver des documents sur le cinéma asiatique, japonais, australien, québécois, africain. Là, on a fait une petite table avec quelques livres qui parlent du cinéma africain, mais aussi avec un livre qui est d'actualité, qui est en lien avec ce qui se passe aux États-Unis et le mouvement Black Lives Matter, qui s'appelle Black Light. Et puis au studio, donc, il y a tous les deux mois une matinée, le dimanche matin, donc la dernière c'était dimanche dernier, qui s'appelle le bimestriel du cinéma africain de Touraine. Et on essaie d'être en lien, la bibliothèque, avec ce qui se passe dans nos salles aussi. Donc la bibliothèque est vraiment dans les studios, elle est financée par les studios, etc.
Et au niveau du fond, qui s'est étoffé au fur et à mesure des années, mais est-ce que, par exemple, si quelqu'un cherche un livre, que le fond est quand même très important, mais est-ce que des fois, sur suggestion de spectateurs qui viennent de lecteurs, vous pouvez vous procurer des nouveaux livres ?
Alors oui, tout à fait, ouais, ça nous arrive, on répond à la demande, notamment, l'édition des livres qui concernent le cinéma est assez maigre, donc on peut se permettre aussi d'acheter les dernières nouveautés. C'est pour ça, donc l'édition est maigre en livres, mais elle est très riche en revues, donc on a une trentaine d'abonnements. C'est assez éclectique, ça va de la revue qui va parler de l'actualité du cinéma comme les Cahiers du cinéma ou Télérama ou Positif à une revue anglaise qui est une référence en la matière qui s'appelle Sight and Sound, des revues qui vont s'intéresser à des genres comme Mad Movies ou sur le court métrage, la revue Bref, c'est assez varié. Et du coup, en France, en fait, par rapport au monde anglo-saxon, il y a eu beaucoup plus d'écrits dans les revues de cinéma que dans l'édition livre, en fait.
Et le profil des gens qui fréquentent la bibliothèque, vous avez déjà fait des études là-dessus ?
Alors, c'est comme nos revues, c'est assez éclectique en fait, ce profil-là. Ça va du passionné de cinéma qui sera porté sur des livres d'actrices ou d'acteurs, le passionné forcément intéressé par un peu tout ce qui touche, mais beaucoup plus sur des biographies, sur des réalisateurs et réalisatrices aussi. Aux étudiants qui ont un travail à rendre, notamment je pense à la faculté art du spectacle ou certains en option cinéma qui ont passé un moment ici à la bibliothèque, ont un travail à rendre. Alors, ils ne le savent pas encore, mais bientôt. un travail à rendre sur un auteur. Donc, voilà. Et puis, nos spectateurs et spectatrices, en fait, avant ou après une séance, ça reste un moment privilégié pour venir nous voir dans nos murs. Quoi.
Et donc, régulièrement, vous faites aussi des expositions. Et là, on va pouvoir bifurquer sur l'exposition Lutunès, qui est actuellement... En place à la bibliothèque. Donc, y a Eve aussi qui est parmi nous. Tu veux peut-être te présenter dans un premier temps?
Oui. Ouais. Donc bonjour, moi c'est Eve, je suis actuellement en service civique au cinéma studio, donc à la bibliothèque principalement. Et j'ai pu aider pour l'exposition Solid Finesse.
Et t'as connu comment, toi, la bibliothèque des studios? C'est un endroit que tu fréquentais avant d'être en service civique ou que tu as connu par le biais du service civique?
Par le biais du service civique.
Et tout de suite, du coup, tu as eu envie d'en découvrir plus?
Oui, tout à fait.
Et alors, cette exposition, comment elle s'est, tu peux nous expliquer comment elle s'est construite? Est-ce que, pourquoi d'abord, d'ailleurs, Lutte Funeste? Est-ce que c'est par rapport au confinement, on a vu pléthore de films de Lutte Funeste à la télévision? Est-ce que c'est par rapport à l'expo aussi de la Cinémathèque française autour de Lutte Funeste qui a lieu actuellement? Comment elle est née, cette exposition?
Alors oui, donc aussi sûrement à cause du confinement et des films qui sont passés de Lutte Funeste. Mais aussi, oui, la Cinémathèque, on s'est beaucoup inspiré en fait de tout ce qui a été fait par la Cinémathèque pour créer justement cette exposition. Et aussi, c'était pour rendre hommage du coup à Lutte Funeste, qui est quand même un acteur très célèbre et très connu du public français.
Est-ce que tu l'as vue, l'exposition à Paris?
Non, j'ai pas encore eu l'occasion.
Je crois qu'elle est encore pour plusieurs mois. Donc, Lutte Funeste, qu'est-ce qui t'intéressait? Est-ce que c'est un acteur que tu connaissais avant de travailler sur lui précisément comme ça, ou alors pas du tout?
Oui, je le connaissais, j'avais vu beaucoup de ses films, La Grande Vadrouille, L'Avare, La Folie des Grandeurs, enfin beaucoup de films de Lutte Funeste.
Comment, là, cette exposition, elle s'est construite? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Bien sûr. Alors, donc c'est une collègue qui a réalisé cette exposition. Et elle s'inspire en fait du coup de la Cinémathèque. Mmh. Et elle a fait également des recherches, donc on n'a pas beaucoup de visuels parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de Lutte Funeste qui sont passés au cinéma studio. Mais en revanche, on a beaucoup de dossiers d'acteurs et de dossiers de réalisateurs. Donc on a par exemple Gérard Oury, on a aussi Édouard Moulinaro et Jean Giraud, donc qui sont des grands réalisateurs des œuvres de Lutte Funeste. Et du coup, on a du coup beaucoup de dossiers sur eux et aussi sur Lutte Funeste, donc l'acteur. Donc c'est vrai qu'on a plus de documentation que de visuel.
C'est ça d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas précisé aussi tout à l'heure. Il y a la bibliothèque, mais il y a aussi ce fonds d'archives en bas. Tu peux peut-être, avant qu'on reprécise Lutte Funeste, nous préciser là-dessus qu'il y a un fonds très conséquent en bas dans la bibliothèque.
La genèse de la bibliothèque, c'est ce fonds-là en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les rédacteurs des carnets des studios, c'est qu'ils ont en fait amassé des coupures de presse, des dossiers de presse sur les films, sur les réalisateurs, les réalisatrices. Et du coup, c'est ce qui constitue en fait ce qui est présent dans nos murs en bas et qui prend beaucoup de place. Enfin, le papier, c'est quelque chose qui est volumineux. Et du coup, en fait, on a classé depuis le début en fait par cinéastes en fait des documents sur leurs films, sur leurs bios, et donc on va trouver pour chaque réalisateur, réalisatrice, ses coupures, etc. C'est assez consulté. Enfin, quand on fait une recherche, ça permet de rassembler dans un seul dossier tous les éléments concernant le réalisateur, l'actrice, l'acteur, etc. On a aussi constitué ces mêmes dossiers pour les différents festivals qui existent un peu partout dans le monde, donc du Festival de Cannes jusqu'à des festivals de Ontario, de Sundance, etc. Au petit festival de cinéma africain aussi. Et voilà, enfin, c'est des documents qui sont consultables sur place et pareil, on peut les photocopier. Voilà.
Et pour revenir à Lutte Funeste, tu nous parlais de coupures, notamment voilà, de presse. Est-ce que du coup, vous avez tout trouvé, des choses qui étaient à la bibliothèque, ou vous avez été chercher aussi en dehors de cette bibliothèque pour constituer cette exposition?
Alors non, là, tout vient de la bibliothèque. Et aussi, du coup, en fait, les dossiers, c'était des dons aussi de bénévoles qui avaient chez eux des grands dossiers d'archives. Et du coup, ils avaient donné généreusement à la bibliothèque.
Et qu'est-ce que toi, tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a impressionné dans cette recherche et dans cette exposition que tu ne connaissais pas?
Alors, il y a beaucoup d'articles sur Lutte Funeste, il y a beaucoup aussi de sources. Donc, il y a Le Monde, Combat, Le Figaro, France Nouvelle, L'Express. Donc, vraiment, ça vient de plusieurs sources différentes. Et aussi, ce sont d'origine, d'époque. Donc, on a aussi, par exemple, il y en a un du jeudi 12 octobre 1967.
C'est émouvant de retrouver ces papiers-là. C'est ce que tu as ressenti, du coup?
Tout à fait.
Et mais chercher plus quoi, du coup, sur Lutte Funeste quand tu as constitué cette exposition? Il y a une thématique plus précise sur Lutte Funeste qui t'a intéressé?
Après, oui, donc La Grande Vadrouille, c'est vrai que c'est un de ses films, on va dire, les plus connus, puisqu'il y a eu 17,27 millions de spectateurs. Donc c'est vraiment le film le plus connu. donc sorti en 1966. Et c'est vrai que là, du coup, au Cinéma Studio, c'est passé la version restaurée du 13 juillet 2016. Mais on n'avait pas les anciennes affiches parce que ce film n'était pas basé au studio. Et c'est vrai qu'on a quand même fait un bon travail de recherche puisqu'il y a tout un panneau qui est consacré à la Grande Vadrouille.
Oui, alors, d'ailleurs, c'est à l'étage de la bibliothèque. Donc il y a trois... Tu peux nous expliquer un peu comment voir l'exposition ? On peut peut-être même faire un tour, si tu veux, de l'exposition.
On peut commencer par ici.
Ouais.
Donc du coup, là, on a la Grande Vadrouille, en petite affiche en format A3. En dessous, on a le premier film où Louis de Funès, en fait, c'est un petit peu révélé, on va dire. Donc c'est La Traversée de Paris. Donc il joue avec...
Gabin.
Voilà, c'est ça, et Bourville, tout à fait. Ensuite, on a un autre panneau, donc là, consacré du coup à Oscar. Donc il y a beaucoup de coupures de presse et d'articles. Alors là, du coup, c'est consacré à Puig Puig et à Faites Sauter la Banque. Donc là, du coup, c'est un petit article aussi qui retrace Louis de Funès. Là aussi, on a un article donc, sur la fabrication de la soucoupe volante du gendarme de Louis de Funès. Donc ça explique comment elle a été fabriquée. Donc oui, on a des petites anecdotes. Là, il y a des petits quiz, en fait, aussi, des fois, en bas des articles.
Ah, il faut avoir des lunettes, par contre.
Oui, enfin, c'est écrit tout petit. Mais il y en a un plus grand dans un petit livre sur l'autre côté. Et voilà, donc toujours des petits articles aussi. Donc là, on a un petit magazine aussi où il y a un petit article sur Louis de Funès. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup, en fait, d'articles à lire, plus que le visuel, parce qu'on a quand même quelques photos, mais on a plus d'articles, en fait. Alors là, on a un panneau entièrement consacré, donc sur Louis de Funès et les gendarmes. Donc ça commence du gendarme à Saint-Tropez. De Saint-Tropez, pardon. Et ça va jusqu'aux gendarmes et les gendarmettes. Du coup, c'est son dernier film, le gendarme et les gendarmettes, parce que malheureusement, il est décédé juste après. Là aussi, donc encore, là, c'est plutôt la folie des grandeurs. En fait, on a fait par thème aussi, donc thème de film et aussi de ce qu'on avait retrouvé dans les dossiers. Et là, du coup, là aussi, on a une petite fiche sur Gérard Rouy. Et on a aussi, du coup, les aventures de Rabbi Jacob, un classique.
Et d'ailleurs, en parlant de la Grande Vadrouille...
Voilà, en parlant de la Grande Vadrouille, on y est justement. Et donc là, du coup, une grande affiche donc, qui a été affichée quand le film est sorti au mois, le 13 juillet 2016. Et là, du coup, pareil, des articles. Donc là, c'est sur Culture. On a plusieurs sources, en fait. On a Combat aussi. Donc plusieurs articles donc, sur la Grande Vadrouille d'origine et d'époque, en plus.
Ouais, c'est ça, surtout. C'est, ça, c'est voilà. Pas des copier-copier, quoi. C'est vraiment les articles
d'origine, d'origine de l'époque. Là, on voit 6 décembre 1966. Et là, justement, il y a un petit livret où vous avez des quiz à l'intérieur. Donc là, il y a des petites questions. Pour plus jeunes et pour plus grands.
Et là, on finit par la barre.
Par la barre, du coup, donc pareil, donc une grande affiche, donc signée Ferracci. Et Oscar aussi, d'ailleurs, est signée Ferracci, je précise. Et voilà, donc on a aussi toujours des articles et beaucoup de lectures.
Très bien. Elle est en place jusqu'à quand, cette exposition ? Tu sais ? Ah non, c'est la question piège.
Jusqu'à la prochaine exposition.
Et vous avez déjà des idées d'autres expositions là, que des genres que vous aimeriez bien ou...
Alors souvent, en fait, on essaie de faire des expositions qui sont en lien avec la programmation, l'air du temps aussi. Pas mal aussi d'expos qui sont en lien avec la programmation de la Cinémathèque. Ouais. Notamment aussi parce qu'on a des ressources concernant ces films qui sont souvent de patrimoine. Et du coup, c'est là où on aura le plus de ressources aussi. Voilà. C'est Daniel qui s'occupe des expos au sein de la bibliothèque, une passionnée et puis une spécialiste dans le domaine, on peut dire. Et du coup, elle reste mystérieuse en fait hein, sur les prochains. C'est difficile de les souterrer. Mais ça sera annoncé sur notre Facebook ou sur le blog de la bibliothèque. Du coup, je ne vous ai pas dit, mais elle est ouverte tous les jours. La bibliothèque. Ah, si, je l'ai déjà dit, ça, en fait.
Oui, mais ouais, tu peux le redire, c'est pas très grave.
La bibliothèque est ouverte à tout le monde. Du coup, on peut venir même si on n'est pas abonné. Quand on est abonné au Cinéma Studio, l'avantage, c'est que la carte bibliothèque pour emprunter des documents est gratuite. Sinon, elle coûte 3 € la carte pour une année. Voilà, on peut emprunter 3 documents, 3 livres pour 3 semaines. Et du coup, je disais qu'elle est ouverte tous les jours, sauf le mardi et le dimanche, et fermée pendant les vacances scolaires.
Bah, très bien. Bah, je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Peut-être vous avez un site internet aussi.
Oui, donc le blog de la bibliothèque, c'est biblistudio.wordpress.com. Et on organise tous les 2 mois une séance avec 100 canal fixe dans la bibliothèque. La dernière était dimanche dernier, en fait. Enfin, donc sur Tchako avec le réalisateur qui était en visio. Et la prochaine aura lieu le 15 décembre, donc au sein de la bibliothèque, le 15 décembre, notez ça dans vos calepins, la prochaine séance sans canal fixe à la bibliothèque des studios.
Eh ben super, merci beaucoup.
Merci.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, hautain, lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je géant, je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi.
Sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. Mais c'était...
Pardon. Merde, excuse-moi, j'ai merdé.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour vous parler cinéma. Et Pierre nous a rejoint entre-temps. Bonsoir Pierre.
Salut.
Et tu, du coup, on en a parlé tout à l'heure, tu nous parleras de Vampire Humaniste Cherche...
Suicidaire Consentant.
Ouais, c'est un titre...
Ouais, dire le titre en entier, c'est ouais, un c'est clair. Poil compliqué.
Et, on vous en parlera tout à l'heure. Avant, je vais vous dire quelques mots sur un premier film qui s'appelle La vie de ma mère. Là, on a entendu une chanson de Julien Clerc. C'est la chanson, on va dire, titre du film. La chanson s'appelle Fais-moi une place. C'est un premier film de Julien Carpentier qui avait fait plusieurs courts-métrages avant, mais là il a réalisé un long-métrage. Ça fait 10 ans à peu près qu'il a cette histoire en tête. Il voulait en faire d'abord un court-métrage d'ailleurs, et puis ça a donné voilà, ce long. C'est l'histoire d'un duo, un fils qui est joué par William Lebgill. Il incarne Pierre qui a une trentaine d'années, qui est fleuriste, et donc il a une vie voilà, de jeunes trentenaires, une copine, il commence à voilà à être vraiment vraiment indépendant financièrement, à gagner bien sa vie, en tout cas être autonome à tout point de vue. Et puis il a une vie familiale pas forcément là pour le coup stable, c'est-à-dire une mère Judith qui est jouée par Agnès Jaoui qui est bipolaire, qui est dans un centre, et cette mère qui il n'a pas les capacités forcément pour s'en occuper, parce que c'est lourd quand on est dans la vie active de s'occuper de parents qui sont dépendants, malades. Donc voilà, il l'a mis dans ce foyer-là, et cette mère va elle va s'enfuir de cet hôpital et de cet accueil en tout cas de jour, et va rejaillir dans la vie de Pierre le temps d'un week-end. Donc forcément ça va créer des crispations. J'ai trouvé le film très touchant, très bien écrit, tendre, vraiment une relation très tendre, une relation compliquée évidemment entre ces deux personnages, mais assez belle. On sent que le personnage de Pierre, qui est incarné par William Legill, il est un peu paumé, il aimerait bien aider sa mère, mais en même temps il a envie aussi de vivre sa vie de trentenaire, il est un peu basculé entre ces deux choses là à la fois il aime évidemment profondément sa mère et il aimerait qu'elle aille mieux, et de l'autre côté vivre des choses de son âge ça, c'est pas forcément quelque chose de son âge de s'occuper d'une mère malade. Donc le film est là-dessus, sur comment être aussi indépendante et de pas avoir des choses forcément trop lourdes à gérer à cet âge-là. Il y avait un film il y a plusieurs années sur la démence qui s'appelait Une vie démente, qui était vachement bien, sur pareil, comment on s'occupe de parents de parents qui rentrent dans une démence, sous un volet larmoyant ou pessimiste non plus, parce que le film, il y a plein de lumière, et c'est ça que j'ai trouvé assez beau en fait et c'est ça qui émeut dans le film, c'est que c'est traité avec beaucoup de lumière et de soleil. Enfin, on sent que ces deux personnages ils s'aiment et ils ont envie que ça aille mieux. Et puis moi j'aime beaucoup ce film parce qu'il y a la magnifique Agnès Jaoui et on la voit trop peu au cinéma à mon goût. Elle a reçu cette année, on avait parlé, le César d'honneur. Elle a joué dans tellement de films importants du cinéma français et notamment écrits, parce que c'est une immense scénariste aussi, avant tout Agnès Jaoui, mais là c'est pas elle qui a écrit le film, et elle est lumineuse, on sent qu'il y a un œil qui pétille, on sent qu'elle aime bien, qu'elle a adoré jouer dans ce film là bref, je vous conseille, c'est un film très touchant et je pense qu'il peut vous émouvoir. Et il est encore à l'affiche, il est sorti il y a 3 semaines et il est encore dans les cinémas, je vous le conseille, c'est un petit coup de cœur du moment. Il a reçu le prix du public au festival d'Angoulême l'année dernière, qui est un festival francophone qui commence à être assez réputé, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il existe maintenant, je crois, ce festival-là à Angoulême. Donc prix du public dans un festival, c'est pas anodin. L'année dernière, il y a quelques années, c'était une vraie famille qui avait remporté le prix, et je pense au festival d'Angers l'année dernière qui avait remis le prix du public à Chien de la Casse. Donc voilà, c'est des films aussi dans une année qui peuvent compter dans les festivals. Enfin, c'est pas anodin d'avoir un prix du public dans un festival. C'est pour ça que je voulais le souligner. Donc voilà. Et ben, tout de suite, je vous avais dit que je ne serais pas très longue, parce qu'on va parler d'un film aussi assez... Enfin, il n'y a pas que drôle, d'ailleurs. Enfin, il y a plusieurs... je pense qu'il peut être rangé dans plusieurs genres de courants de films. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Pierre, tout un programme.
Ouais, tout un programme. Bah, en fait, j'aimerais bien vous résumer le film, mais j'ai l'impression que le titre le résume extrêmement bien. Du coup, c'est un film réalisé par Ariane Louis XVI. Donc déjà, j'adore ce nom de famille, en plus d'adorer le nom de son film. Donc une toute jeune réalisatrice qui, je crois, fait son premier long métrage. Et donc, c'est un film québécois, qui nous prouve encore une fois que le cinéma québécois est extrêmement prometteur, parce que entre les films de Monia Chokri, Charlotte Lebon, il y avait quoi aussi l'année dernière ? Il y avait, on dirait La planète Mars, je crois que c'était La fleur ou La plante, je confonds tout le temps.
Ah oui, je ne l'ai pas vu.
Qui l'avait fait, qui était vraiment super drôle aussi. Et qui était d'ailleurs dans un ton un peu similaire à ce film-là, dans le sens où il y a un humour assez cynique, assez pince sans rire, assez froid, qu'on retrouve du coup dans Vampire Humaniste. Je ne redirai pas le titre en entier à chaque fois, je ne vais pas m'infliger ça et vous infliger ça. Donc c'est du coup un film de vampire, il n'y a pas du tout de second degré dans le titre, c'est vraiment littéralement ça le pitch. Donc l'histoire en fait d'une petite fille qui a grandi donc, dans une famille de vampires et qui... refuse de tuer des êtres humains. Ce qui est un problème, vous me direz, quand vous êtes un vampire, parce que du coup, pour se nourrir, c'est compliqué, et ça fait qu'elle est complètement dépendante de ses parents à un âge où elle est censée prendre son envol et partir de la famille. Et donc on va suivre cette adolescente qui a ce problème-là. Adolescente vampire, c'est-à-dire qu'elle a, je sais plus quel âge elle dit, mais bon, plus d'une centaine d'années, mais pour une vampire, c'est jeune. Et en fait, elle va avoir une idée un jour qui est de se dire, mais en fait, oui, j'ai qu'à aller dans un groupe de dépressifs et de suicidaires parce que là, je trouverai quelqu'un qui veut bien mourir. Et elle rencontre du coup un jeune homme. Du coup, qui doit avoir dans les 18 ans, quelque chose comme ça, et qui a clairement raison de s'accrocher à la vie, quoi. On voit son quotidien et vraiment il est terrible. Et en fait, ça va pas se passer comme prévu, évidemment. Je vous en révélerai pas plus, mais on va voir une relation se tisser entre ces deux personnages. C'est vraiment très drôle comme film. Alors déjà, je suis content de retrouver Steve Laplante, qui est un acteur qu'on voit dans pas mal de films québécois et qui est toujours assez génial, qui ici, du coup, joue le père de l'actrice principale. Tous les personnages sont assez géniaux. Petite mention pour JP, un personnage secondaire qui est vraiment très drôle, qui est un mec lourd qui est un peu là, qui se retrouve là à cause d'un accident au moment du film et qui va toujours rester en arrière-plan et il est vraiment hilarant. Franchement, pour un premier film, c'est une sacrée réussite. Le film a ce ton vraiment très particulier, à la fois toujours un peu drôle, on s'est vraiment esclaffé à voix haute dans la salle, et en même temps toujours touchant, et qui parle surtout d'un sujet extrêmement lourd, parce qu'en fait c'est vraiment du rapport à la mort, quoi. Et puis c'est l'histoire de personnes qui sont jeunes et qui ont envie de mourir, quoi. C'est pas un quarantenaire ou un cinquantenaire dépressif comme on en voit dans beaucoup de films. Là, c'est vraiment des jeunes adultes, ouais, voire adolescents.
Je sens qu'il y a effectivement, ça montre le mal-être de cette jeune génération. Même si dans le film, il y a effectivement le harcèlement scolaire notamment qui est montré, mais on peut le décliner à toutes les autres catastrophes qu'on est en train de vivre, le dérèglement climatique, tout ce qui fait que, d'ailleurs, c'est dans les études, pardon, qui montrent qu'effectivement, entre 18 et 24 ans, il y a de plus en plus de personnes, de jeunes en tout cas, qui sont dans cet état dépressif, quoi. C'est un fait.
Ouais, et puis pour le coup, moi, ce qui me marque en fait dans ces personnages-là, et c'est vrai, comme tu le dis, que c'est un truc générationnel, ce qui me marque dans ces personnages-là, c'est vraiment le fait aussi que leur vie, elle est assez vide, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de motivation, mais parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Et du coup, elle reste chez ses parents parce qu'elle n'arrive pas à franchir un cap dans sa vie. Lui, il a... certes quelques petites passions dans la vie, mais rien de suffisant pour lui donner envie de rester sur cette terre. Et donc c'est vraiment ça, moi, que je trouve frappant dans le portrait de ces personnages, et ce qui les rend touchants, quoi, c'est que du coup en fait, quand ils se rencontrent, ils ont enfin quelque chose auquel ils tiennent dans leur vie.
Et pourtant, c'est pas des familles, en tout cas, qui sont dans une pauvreté. Enfin voilà, on n'est pas dans ce, on est dans une classe, dans la classe moyenne, dans une classe moyenne lambda, on va dire, hein.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est des gens qui n'ont pas spécialement de raison d'aller mal, mais qui se trouvent qu'ils vont mal, quoi.
C'est ça.
Et pourtant, malgré tout ce que je suis en train de dire, le film est vraiment très drôle. Et c'est ça que je trouve être
ouais, ce second degré, un tour de constamment, force. Ouais, et parce qu'il est très bien écrit.
Ah oui, vraiment très bien écrit. J'ai entendu une anecdote dans une interview du coup de l'acteur et de l'actrice principaux, le principal duo du film, qui ont dit que pendant les essais du casting, il y avait absolument aucune alchimie entre eux et que vraiment ils étaient très profondément mal à l'aise en faisant les essais, qu'ils savaient pas quoi se dire, qu'ils n'arrivaient pas à s'envoyer les répliques, mais à un point où c'était assez catastrophique. Et du coup, la productrice du film a dit « Bon, bah non, on laisse tomber, on prend pas lui. » Et puis, au contraire, la réalisatrice a dit « Mais si, c'est ça que je veux. » Et donc, je trouve ça assez génial comme anecdote parce que ça nous raconte que Ariane Louis XVI, elle avait bien en tête son idée et bien en tête une certaine vision d'une relation. Et elle voulait pas deux jeunes beaux gosses qui ont l'air d'être parfaitement faits l'un pour l'autre, quoi, mais au contraire, des introvertis. En plus, les deux dans le film, ils ont ce portrait-là, quoi, c'est des introvertis, ils ne parlent pas beaucoup, ils extériorisent pas beaucoup, on ne sait pas toujours ce qu'ils pensent. Et vraiment, en fait, bah, les deux, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire de leur corps, quoi, en fait. Et y a une scène qui implique un vinyle et une chambre. Qui vraiment pour moi incarne ce malaise profond, quoi. C'est que ils mettent un vinyle et puis ils restent debout tous les deux côte à côte et ils font rien. Ouais. Et pendant les trois quarts de la chanson, ils font rien. On les regarde là à rien faire. À un moment donné, elle fredonne un peu, puis elle s'arrête, puis lui il fredonne un peu, puis il s'arrête. Et en fait, ils sont bloqués dans leur mal-être et dans leur vide, quoi. Et je trouve ça assez génial en fait de faire ça et surtout de réussir à faire rire avec ça, quoi. Donc voilà, c'est Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, et moi je vous le recommande très très fort. Et toi aussi tu l'as vu du coup?
Ouais, je l'ai vu, je suis d'accord avec toi, moi j'ai trouvé ça très drôle, très décalé, et c'est pas un film de vampire qu'on a déjà vu plein de fois, donc c'est atypique, singulier. Clairement. Et tu parlais de vinyle, du coup on va passer la chanson qu'on peut entendre dans cette séquence là.
Cette fameuse film. Séquence. Ouais.
Got me crying again. When will you let this heartache end? Emotion, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely. Lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotion, you see what you're doing to me. Emotions, please set me free. You worry my days, oh, you torture my nights. Never a dream, no, no dreams never turn out right. Emotions, give me a break. Oh, let me forget that I made a mistake. Oh, can't you see what you're doing to me?
Bon, il vient des sur Plan Séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
Et oui, Benoît Delépine, meilleure émission de cinéma au monde. Bon, ça, on vous laissera juge. On va continuer sur les vampires, Charles, puisque ça y est, tu as trouvé une idée.
Voilà, ouais, non, parce que juste voilà,
pour continuer, conseil,
si vous voulez rester dans l'ambiance vampire, un film qui est déjà assez connu, qui date de 2014, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu.
Ça fait 10 ans, donc c'est bien.
Bah ouais, 10 ans, c'est vrai. Ouais. Je vous conseille fortement un film qui s'appelle What We Do in the Shadows, ou en français Vampire en toute intimité, qui est un film de Taika Waititi et Jemaine Clément. Alors Jemaine Clément, il est assez connu aussi pour avoir fait une série qui s'appelle Fly of the Conchords, qui était une série vraiment très très drôle. Et donc là, What We Do in the Shadows, c'est un faux documentaire sur une colloque de vampires. Parce que bah, voilà, ça se passe donc à notre époque. Et bah, il est plus difficile d'être un vampire à notre époque. Voilà, faut être un peu plus discret. C'est pas comme au temps du Moyen Âge où tu pouvais zigouiller tous les gens que tu voulais pour boire leur sang. Voilà, ça inquiétait personne. Voilà, il n'y avait pas la police qui te recherchait et tout à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, ils doivent vivre autrement. Pour survivre et se nourrir. Donc voilà, c'est en fait une équipe de documentaires qui va les suivre. Il y a un côté un peu voilà, comme dans C'est arrivé près de chez vous, quoi. On les suit vraiment, ils sont toujours conscients d'être filmés. Voilà, ils acceptent une équipe de documentaires en acceptant qu'ils vont pas les manger aussi, surtout. Et c'est vraiment très, 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 très drôle. C'est plein de gags. Moi, j'en ai pleuré de rire. Et en plus, sur le gâteau, il y a une série aussi qui a été faite après, qui est en 2019 et qui a duré quand même 5 saisons. Ça s'est terminé en 2019. Qui rajoute d'autres types de vampires, parce que là, dans le film, on a 3 vampires qui sont en coloc. Et puis, bah, voilà, en plus, avec leur petite guerre d'ego, etc. Enfin, ils sont toujours en train de se chamailler. Et là, dans la série, bah, on va rajouter d'autres types de vampires. Il va y avoir, on a nos 3 vampires qui se nourrissent de sang. Et puis, bah, il y a aussi les vampires psychologiques qui vont juste vous parler de choses terriblement ennuyeuses de leur quotidien. Et vous, en fait, ça vous ennuie tellement que bah, vous dépérissez et ce vampire se nourrit de ça. Il y a aussi les vampires émotionnels qui, eux, bah, vous racontent des choses tellement tristes que en fait, bah, vous avez de la compassion, vous êtes de la pitié pour eux, et eux, voilà, ils vont se nourrir de ça. Donc, c'est très, très drôle. Et puis, évidemment, il y a des loups-garous aussi. Il y a plein de gags. Donc, c'est parfois, voilà, il y a les rencontres entre vampires et loups-garous qui ne se passent jamais très, très bien. Et en général, les vampires essayent de toujours aller faire chier les loups-garous quand ce n'est pas à la pleine lune. Et voilà, moi, le petit gag que je peux raconter qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un loup-garou qui arrive à se transformer n'importe quand en loup-garou. Il suffit qu'il imagine la pleine lune et il y arrive. Donc voilà, c'est ce genre d'humour. Donc voilà, What We Do in the Shadows, c'est vraiment très, 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 très drôle. Et je sais que pendant un moment, on le trouvait sur certaines plateformes. Là, en ce moment, je ne sais plus. Mais voilà, ça se trouve en tout cas.
Eh ben, très bien, pour ce conseil filmique, Charles. Avant de vous dévoiler, pas en avant-première, puisque vous avez peut-être vu l'info sur les réseaux sociaux, mais avant de vous dévoiler en cette fin d'émission la liste des films de la nuit des studios, on va... pardon, c'est que j'ai dit « Ah » parce que ça vient de s'éteindre dans le studio. J'ai dit « Ah,
quelqu'un
nous a éteint la lumière. » Je vais vous parler de La Promesse verte, le deuxième film d'Édouard Bergeon, qui après Au nom de la terre, il y a quelques années, nous revient avec un second long métrage, avec une histoire assez simple. Un jeune homme qui s'appelle Martin, qui est parti en Indonésie finir sa thèse, va être témoin en fait d'un crime, d'une exaction dans un village, voilà, des mercenaires qui vont tout saccager dans un village autochtone. Et il va se faire témoin de ça, il va filmer cette scène-là et il est prêt à diffuser ces images-là pour montrer comment des territoires là, primaires, des forêts primaires sont en train d'être massacrés pour ensuite être détruite et ensuite pour faire des palmerets et de mettre de l'huile pour fabriquer de l'huile de palme. Donc il veut se faire en tout cas acteur et véhiculer ça. Sauf que évidemment en Indonésie, faut surtout pas que ça se sache, parce que c'est évidemment c'est très très mal vu. Donc il va se faire arrêter, on va vouloir le faire taire et ensuite il va être dans les couloirs de la mort en Indonésie. On va le faire passer pour un dealer en Indonésie. C'est très très mal vu les dealers. Et tout ça pour dire que l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, parce qu'il y a sa maman qui est jouée par Alexandra Lamy qui va tout faire pour aller sauver son fils qui est parti là-bas en Indonésie. Donc c'est à la fois le film le combat d'une mère pour aller sauver son fils à l'autre bout de la planète. Et en sous-texte, un film pour lutter et dire tous les massacres qui sont faits à l'autre bout de la planète pour nourrir une partie de la population. Parce que c'est exactement ça, on va détruire des forêts primaires, on va construire des palmeraies pour fabriquer de l'huile de palme pour ensuite que ça soit consommé par des Occidentaux à grande échelle. Quoi. Donc ça sert à la fois les lobbies, les politiques, les économies de plein de pays. Et sauf que pour la nature, pour l'écologie, pour le climat, c'est une catastrophe à tout point de vue. Donc le film, à mon sens, aurait été encore plus intéressant si ça, c'était vraiment le premier plan du film, sauf que c'est vraiment le sous-texte et que le premier plan, c'est vraiment le combat d'une mère pour sauver son fils, quoi. C'est intéressant, c'est louable, hein, mais le réalisateur entend faire un film politique, je ne le trouve pas forcément si politique que ça. Alors oui, il l'est à un point de vue, celui-là, mais il arrive c'est pas le premier point du film quand on le voit. Après, c'est intéressant, parce qu'au moins, ça permet de mettre en lumière ce constat-là et ce qui se passe là-bas. Mais ça parlera, il y aura peut-être sur le nombre qui vont voir le film, certains qui vont dire, oui, effectivement, l'huile de palme, c'est pas bon, et je vais tout enlever de mon placard, tout ce qui contient l'huile de palme. Certainement qu'il y en aura. Après, je ne pense pas qu'à grande échelle, ça fasse quelque chose. Mais bon, c'est quand même louable de l'avoir fait. Et je pense que ça touchera certaines personnes en disant, oui, cette mère est une mère courage, quoi, qui va essayer de sauver son fils des griffes de la justice indonésienne. Bon, on sort de là, on est dépité évidemment de la politique, de ce qu'on fait de notre planète. Hein. On sort de là en se disant, oui, il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on peut évidemment faire à notre échelle des choses. Je pense que tout le monde en fait à son échelle des choses. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Donc, j'étais un peu déçue, parce que je m'attendais peut-être à un film un peu plus politique et que, à mon sens, en tout cas, ça ne l'est pas forcément. C'est intéressant dans le sens où, au moins, il dénonce quelque chose qu'on n'entend pas forcément partout, en tout cas au cinéma. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Et pour les acteurs, parce que je n'ai pas parlé des acteurs, donc c'est le duo, c'est Alexandra Lamy qui campe la mère de famille. Elle incarne Carole, qui est une prof de collège. Et puis Martin est joué par Félix Moati. Donc c'est lui qui va se faire le porte-parole de ce qui se passe là-bas, avec des personnes qui habitent là-bas aussi. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, vous l'aurez compris, mais je ne vous décourage pas non plus d'aller le voir si vous voulez vous faire un avis, évidemment. Ça s'appelle La Promesse Verte. Voilà, il nous reste un peu moins de 5 minutes. On peut vous dire la liste des films que vous pourrez voir à la Nuit des Studios. On en reparlera, mais elle vient d'être diffusée. Donc, ça sera le 1er juin au Cinéma Studio, évidemment. Donc, 15 films. Alors, Les Hirondelles de Kaboul, Divorce à l'italienne, Citoyen d'honneur, Une pluie sans fin, Camille redouble, Au revoir là-haut, Adieu Berthe, M le maudit, Total Recall, Dead Man et Godsland. Voilà.
Pas mal de trucs.
Pas mal de choses. Il y en a déjà qui...
Il y en a, bah,
Alors, Divorce italienne, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment une comédie italienne avec Marcello Mastroianni, que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vu depuis trop longtemps, et que surtout, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Dead Man, je ne l'ai jamais vu au cinéma, donc...
Je pense que voilà, pareil. Et d'ailleurs, alors attends, parce que
c'est un petit Total Recall au cinéma, c'est pas de refus.
Et je me demande si j'ai pas oublié, alors parce que dans une première liste, mais je pense que c'est coupé là. J'avais vu Shining et je l'ai pas dit là.
Ah bah oui, il me semble que t'avais pas Shining. Ouais.
Alors, Shining, obligé. Je pense que en fait j'ai je pense qu'il y a un titre. Ah oui, c'est ça. J'en ai oublié, pardon. The Guilty, pardon, qui est vachement bien. D'ailleurs, un film danois sur une femme qui va appeler les secours. Pendant tout le film, en fait, on est dans c'est un huis clos dans une pièce où c'est quelqu'un qui reçoit les appels d'urgence.
Ah oui, oui.
Et on ne sait pas qui appelle, on ne sait pas où elle est cette femme et si lui il va pouvoir la sauver. Et c'est vachement bien. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Shining, du coup, Makala, un documentaire, et R.
C'était bien. Et le dernier
R.
Ah oui, la comédie musicale.
Ouais.
Oh, ça, c'est un bon film de milieu de la nuit.
C'est ça, exactement.
Ou voire même pour finir là-dessus. Ouais. Parce que...
Mais Total Recall, moi, au cinéma, je verrais bien.
Ah
hein.
ouais. Complètement, ouais.
Donc, après, il y a des films plus récents. Je n'irai pas voir Au revoir là-haut ou Adieu Berthe, que je les connais bien. Et puis, je les ai vus pas longtemps. Mais non, là, encore, même le Body aussi, je l'ai vu aussi, à des scolaires. Donc, moi, j'avais passé à des scolaires il y a quelques années. Et je me souviens d'une réflexion, c'était dans le cadre d'une séance scolaire lycéen et apprenti au cinéma, et une jeune fille qui avait dit à sa prof à la sortie de la salle, mais madame, vous êtes sérieuse de nous emmener voir des films comme ça Elle était outrée, quoi, parce que c'est un film sans parole, en noir et blanc. Sérieux, vous êtes sérieuse Et je crois qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle avait vu un...
Ah ouais. Je l'avais vu en séance scolaire aussi. Je ne sais plus si j'étais au collège ou au lycée. Ça devait être au collège. Mais je pense qu'effectivement, j'étais un peu passé à côté parce que du fait que c'est un vieux film, quand tu es un ado, tu t'arrêtes là.
Ouais.
Alors que c'est Fritz Lang et Serge Dov.
Mais c'est vrai que
faut peut-être un peu de recul pour s'en rendre compte. Quoi. Quand tu es ado, c'est peut-être pas le genre de meilleur truc à se bouffer. Quoi.
Puis ça dépend après comment ton prof, oui, effectivement, va te l'amener aussi. Oui. Mais là, j'avais trouvé la réflexion marrante parce qu'elle était outrée quoi, que son prof l'emmène voir M. Le Body. Mais je peux comprendre. Je me souviens d'être allé voir des Hitchcock au collège et sur le moment. Et c'est après coup, tu dis, ah ouais, mais en fait, les profs, ils avaient raison, c'était vachement bien, en fait.
Tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. J'avais un prof de français qui nous montrait beaucoup d'extraits de Kubrick. Sur le moment, ça nous emmerdait. Et puis c'est avec le temps où tu te dis, ah, quand même, merci pour la culture, c'est sympa, quoi.
Ouais, parce que finalement, ça infuse quand même en toi.
Ouais.
Tu t'en rends pas compte sur le moment, mais mine de rien, t'as quand même découvert des films grâce à ça. Et je pense, personnellement, si on aime en tout cas le cinéma... ça en fait partie aussi, ça, ces moments où les profs nous ont montré des films, quoi. Qu'on le veuille ou non, sur
et
le
puis,
moment. Non, mais...
Total Recall, en plus, ça fait suite à Robocop qui est passé l'an dernier, du même réalisateur. Hein,
qui ressort Robocop en 4K.
Ah ouais, incroyable.
Oui. Ouais.
Faut qu'on le passe.
Donc on vous en parlera prochainement. Il y a une super affiche cette année qui a été dessinée, vraiment très belle. D'ailleurs, le créateur de l'affiche sera le 1er juin à la Nuit des Studios pour dédicacer ses affiches.
Très bien.
C'est marqué dans les... voilà. Et on va passer, puis après, de toute façon, il y a Reggae Stories, donc on passera pas tout en entier, mais une partie de la BO de Camille Redouble qui sera à la Nuit des Studios. Donc, BO signée Gaëtan Roussel et Joseph Dahan. Et le film était signé Noémie Lovski. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler cinéma. Ciao.
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 Nous plions tous sous le vent. Si fragile, scintillant, serions-nous juste une étoile, un filament qui brille puis casse sous le temps? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée sur le flanc des falaises au bord des océans.